Ça se passe ici et aujourd'hui. Un moment d'écoute proposé par Cécile Yordanoff. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de « Ça se passe ici et aujourd'hui ». Je vous invite cette semaine à un entretien avec Jean Stevens, médecin cardiologue, bien connu de certains de nos auditeurs puisqu'il a exercé dans notre secteur, à Caussade exactement, pendant de nombreuses années. Le docteur Jean Stevens a récemment publié une lettre ouverte au président des conseils de l'ordre et à tous mes confrères cliniciens.
Mais moi, je suis un médecin belge. J'ai quitté la Belgique en 2003. Et j'ai fait la médecine interne en Belgique. Comme en France, la médecine interne, c'est pratiquement pas la pratiquer en privé, et que je faisais à deux tiers de la cardiologie, j'ai demandé ma transformation en cardiologue avant de venir en France. Donc en France, je travaille comme cardiologue et j'ai fait 8 ans de médecine générale. Donc, je connais bien la médecine générale, c'est une médecine que j'apprécie, je la sens beaucoup plus vraie que la médecine spécialisée, qui est très tentée de faire tourner les machines et donc parce que ça rapporte. J'ai mené pendant 40 ans une recherche, mais impossible de trouver le moindre financement pour ça, donc finalement j'ai fait ma recherche de mon côté, j'ai consacré un tiers de mon temps à ça.
Quel était le thème ?
D'abord le thème de biologie, parce que je voulais être biologiste au départ, qui est... Quelle est la définition de la vie ? Qu'est-ce que la vie ? Parce que j'avais appris, donc il y a 40 ans, on m'avait dit, on ne sait toujours pas ce que c'est que la vie. On ne le sait toujours pas. Et l'autre thème, c'est après avoir fait de la médecine générale, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais enfin, c'est évident que les facteurs psychiques et somatiques s'interpénètrent de manière continuelle. On voit ça tout le temps en médecine générale. Or, moi, je sortais de 4 années de médecine interne universitaire. Le facteur psychique, on en parle pas. Ça met tout le monde mal à l'aise, et donc on fait un petit sourire, et c'est tout. Je me suis dit, enfin, encore une fois, c'est un éléphant dans la chambre, et on fait semblant qu'il n'est pas là, quoi. Depuis 2 mois, je ne parle plus, mais je ne parle plus. Je prépare un travail que j'appelle la pandémie de la peur, et du mensonge et de la peur. Tout est fondé sur des mensonges. Dès le départ, pour moi, le gros mensonge qu'on a voulu cacher, c'est que le Covid, il sort d'un laboratoire. J'ai regardé de très très près et je suis compétent pour lire tous les articles scientifiques parce que je me suis beaucoup intéressé à la biologie moléculaire, à la génétique. C'est absolument ahurissant, mais on est parvenu à faire passer pour une vérité scientifique un mensonge gros, gros comme un éléphant.
Gros comme un
éléphant, c'est qu'on a compromis là-dedans toute une série de virologues. On a d'abord éliminé tous les gens qui avaient une réflexion sur les pandémies et sur la santé publique. On les a balayés. Hein. Donc il y a dû y avoir un jeu de chantage important sur les virologues. Et puis, eux, ayant autorité dans ce domaine-là, c'est devenu une espèce de vérité scientifique, une espèce de consensus scientifique. Il y en a plein qui ne sont pas du tout d'accord sur cette idée-là. Mais enfin, bon, c'est devenu presque une vérité scientifique. Et tout s'est construit à partir de ce mensonge-là. Et qu'il fonctionne bien parce que les gens pensent que la science est une source de vérité. Avant, il y avait la religion qui vous disait ce que c'était que la vérité. Les religions, ça s'est écroulé. Mais le problème, c'est que la science, depuis le départ, c'est une manière de connaître la nature qui ne croit que les choses qui sont objectives et mesurables. Donc, on supprime tout ce qui est subjectif, mais vous supprimez le subjectif chez une personne, dans un corps humain, ça veut dire que vous supprimez le sujet, quoi, tout simplement. Mais c'est comme ça. Nous nous intéressons comme médecins, enfin, médecine interne, on s'intéresse au corps-objet. Et on ne voit absolument pas où le sujet interfère avec ça. C'est énorme. Donc, il y a un mensonge général de la science, mais qui est passé pour une espèce de vérité révélée. Et donc, moi je pense qu'ils ne sont pas fautifs, hein, nos gouvernants et nos conseils scientifiques. Ils ont suivi ce qui semblait être scientifique et donc solide. C'est vrai qu'il y avait de la panique, je pense que les gouvernants, en plus, ils devaient paniquer en se disant « on est responsable de toutes les populations, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et ils sont arrivés avec un truc, clé sur porte. Mmh. Clé sur porte et on va vous faire quelques mois et on vous fait un vaccin, etc. tout était déjà prêt depuis pas mal de temps. Mais c'est du vent, parce que là, on manipule cette science comme on veut, et les firmes pharmaceutiques sont passées maîtres dans l'art de manipuler les études, tout le monde le sait, y compris les directeurs des plus grosses revues scientifiques. Donc, pour moi, ils se sont fait berner. Mais le problème, c'est que les politiques se sont fait berner avant d'avouer qu'ils se sont fait berner. C'est évidemment toute leur crédibilité qui est en jeu. Et je pense que l'avantage de la crise, c'est qu'il va révéler ça.
Vous faites partie des personnes qui pensent qu'on a pu effectivement fabriquer ce virus. Là, par contre, on rentre dans du domaine très complexe.
Alors, oui, voilà,
à affirmer. Comment peut-on vérifier ?
Justement, très complexe. Et pour moi, il est fondamental. Ce virus, il est un artifice sorti d'un laboratoire. Et j'ai une bonne image. C'est un journaliste qui m'a donné l'image et je trouve qu'elle est très bonne. J'ai ajouté des petits détails. Si je vois au fond de mon jardin passer un lion avec le bout de la queue qui est verte, je me dirais, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? On n'a jamais vu un lion se promener sur le bord de l'Aveyron. Et deuxièmement, on n'a jamais vu un lion de mémoire de zoologiste avec le bout de la queue verte. C'est exactement ce qui se passe avec le SARS-CoV-2. On a le code génétique de millions de virus. Et on a des ordinateurs qui vous disent tout de suite, en quelques secondes, à quoi ils ressemblent. Donc on sait qu'ils ressemblent très fort à des virus qui infectent les chauves-souris dans le sud de la Chine. Bon, on les met ensemble, on regarde le code génétique de chacun et on les met à côté. Et puis tout d'un coup, il y a un trou là où on retrouve nulle part, c'est un petit insert qui code pour 4 acides aminés, comme il faut 3 nucléotides pour un acide aminé. Donc on a un petit insert de 12 nucléotides dans l'ARN, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs.
Mais comment on en est sûr, ça, en fait ?
Quels
sont les laboratoires qui nous ont permis de certifier qu'ils existent bien, ces petits inserts dont vous parlez ?
Tous les gens qui font de la génétique du virus SARS-CoV-2 sont bien d'accord. Il y a cet insert fait partie du SARS-CoV-2. Ça, personne ne met en doute. Ce qu'on nous fait croire, c'est que ce serait naturel. Mais pour expliquer que c'est naturel, il faudrait qu'un virus de chauve-souris qui n'a pas cet insert-là est muté dans un hôte intermédiaire, qui serait un animal, qu'on n'a toujours pas repéré, et puis qu'un jour, par hasard, il aurait eu juste tout ce qu'il fallait pour faire sa protéine spike qui attaque l'homme. Et il serait, comme ça, il se serait diffusé partout. Mais ce qui rend la protéine spike tueuse pour l'homme, c'est précisément ce petit insert-là. Et ce petit insert-là, c'est ce qu'on appelle le site de clivage de la furine, enfin, peu importe. Mais donc, pour que par mutation il soit arrivé, il faudrait expliquer qu'il y ait eu par hasard, parce que les mutations, c'est toujours par hasard, et successivement, parce que les mutations, c'est toujours ponctuel, 12 fois des mutations juste l'une à côté de l'autre, qui aurait juste créé ce petit insert. Alors, ce petit insert, il paraît tout petit, mais pour le faire arriver par hasard, c'est une chance sur des milliards de milliards de milliards. Donc, c'est quasiment impossible. Alors, raconter que c'était une possibilité, c'est un gigantesque mensonge. C'est une quasi-impossibilité. C'est tout.
Je disais justement qu'il y avait eu, malheureusement, des personnes qui sont parties sur des fausses pistes en parlant que c'était des inserts de HIV, hein, et c'est pas du tout ça.
Non, c'est pas ça. L'idée que Montagnier avait développée, c'est qu'il retrouvait des morceaux de HIV là-dedans. Et apparemment, on aurait démontré qu'on trouvait des morceaux de HIV dans d'autres virus, etc. Donc ça, c'est une hypothèse, je crois, qu'il faut abandonner. Par contre, ce petit insert de 4 acides aminés et donc de 12 nucléotides, on ne le connaît pas ailleurs, et il a des caractéristiques d'ailleurs assez bizarres. C'est PPRA, ou PRRA, pardon. Et le R veut dire arginine. Et l'arginine est un acide aminé qui peut être codé par, en fait, 6 triplets différents. Or, les triplets qui codent l'arginine du SARS-CoV-2, ce sont des triplets qui sont rares, parce que d'habitude, l'arginine n'est pas codée par ça. Donc, c'est encore une rareté de plus. Donc, on a toute raison de penser que c'est vraiment un petit morceau tout à fait artificiel. C'est facile de faire 12 nucléotides, de les mettre ensemble. Voilà.
Vous avez eu vous-même une expérience qui vous a vaccinale, hein, je crois. Est-ce que vous pouvez
oui,
en parler?
Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que c'est aussi un gros élément. C'est que moi, j'étais un peu dans l'inertie, je dirais. Et comme c'était nécessaire pour toutes sortes de raisons, je me suis fait vacciner. Je me suis dit, bon, je vais me faire vacciner. Et puis après la deuxième injection de vaccin, mais j'ai été ramassé à la cuillère. Hein. Je n'arrivais plus, vous voyez le fond de mon jardin là, hein, ça monte de quelques mètres. Hein. Je n'arrivais plus à faire ça en une fois. Pas parce que j'étais essoufflé, j'étais épuisé. J'avais mal partout, j'avais mal aux articulations. Je transpirais dès que je mangeais, je transpirais dès que je faisais un peu de marche. Et ça a duré deux, trois mois. Hein. Donc c'était pas n'importe quoi. Et je pense que ce qui m'a le plus aidé à en sortir, c'est tout d'un coup de me mettre en rage. Je me suis dit, mais ce n'est pas juste ce qui se passe. On est occupé à nous rouler dans la farine. Et donc je me suis mis en rage, et depuis que je suis en rage, je vais mieux. Nettement mieux.
Tant mieux. Nous sommes bien heureux. Si ça pouvait être un effet secondaire, il serait désirable, celui-ci. Pouvez-vous nous dire quel était le vaccin que vous avez eu?
AstraZeneca. Je ne vais pas employer le mot vaccin, parce que c'est vrai, des vaccinologues, des gens qui ont vacciné toute leur vie, disent que ce ne sont pas des vaccins, ce sont des thérapies géniques. C'est très important, parce que moi, la thérapie génique, je connais ça depuis 35 ans, et j'avais une amie, une biologiste qui travaillait dans l'université, qui a été débauchée par le laboratoire, qui me parlait régulièrement de cette thérapie génique. Après 35 ans, on n'a presque rien sorti avec thérapie génique. Pourquoi? Parce que tous les essais cliniques n'ont jamais dépassé la phase 1 ou la phase 2, tellement on avait de tumeurs, de maladies auto-immunes, etc.
Donc, la différence, excusez-moi de vous couper, c'est que la thérapie s'était quand même appliquée à tenter de guérir une maladie avec cette thérapie. Là, on n'est pas tout à fait dans la thérapie puisqu'on applique un produit sur un corps sain.
Le directeur de Moderna disait on fait le hacking de notre code génétique. Mais il se rend compte, le code génétique, c'est le secret de la vie, c'est toute la mécanique de la vie est codifiée là-dedans. Et il arrive avec son vaccin et il vient mettre sa petite invention. Le code génétique, c'est le fruit de milliards d'années de réflexion de la vie qui s'est dit « Ah, ça marche pas. » Et puis il vient et il hack le truc. C'est énorme. Mais tout ça, c'est pour moi, c'est parce qu'on a complètement désacralisé la vie et on a fait croire que la vie, c'était un ensemble de mécanismes de biomolécules.
Le docteur Tal Zak est directeur de la recherche médicale de la société Moderna depuis 2015. Replaçons les choses dans leur contexte. Quand le docteur Tal Zak parle de « hacker le software de la vie », nous sommes en 2017 dans le cadre d'une conférence où il fait part de recherches sur l'ARN messager et les applications que cela peut avoir dans le développement de nouveaux vaccins, en particulier contre la grippe. Il parle aussi d'applications dans le traitement des cancers et d'une maladie spécifique sur le foie chez certains enfants. On ne parle pas encore là de SARS-CoV-2 à cette époque. En revanche, le docteur Zak emploie bien ce terme de « hacker le software de la vie » qui consiste à introduire une ligne de code ou changer une ligne de code pour guérir certaines maladies. Évidemment, tout cela est passionnant et on peut comprendre l'enthousiasme des chercheurs. Ce qui est moins séduisant, c'est la présentation à l'américaine des travaux, ponctuée d'applaudissements et de sifflets comme dans une standing ovation de série B, ce qui laisse un goût amer de la considération de la vie, comme le décrit notre invité, le docteur Jean Stevens. Il faut aussi savoir que cette présentation présente des projets qui étaient encore au stade des essais et ne sont d'ailleurs toujours pas validés aujourd'hui pour une application à grande échelle. Par exemple, même si les vaccins ARN messagers pour la grippe sont à l'étude depuis de nombreuses années, ils ne sont toujours pas utilisés aujourd'hui. Seul le vaccin SARS-CoV-2 a grillé les étapes pour être administré. Un article très intéressant et très fourni de Marc Gozlan, journaliste médico-scientifique du Monde.fr, datant du 14 décembre 2020, sur les techniques ARN messager, se termine sur cette conclusion. L'avenir des vaccins à ARN messager ne fait peut-être que commencer. même s'il est encore trop tôt pour pleinement évaluer le potentiel de cette nouvelle modalité vaccinale. En effet, des résultats très prometteurs obtenus dans des modèles animaux se sont parfois soldés par des déconvenues lors d'essais cliniques chez l'homme. Moins de 7 jours après cet article, l'Agence européenne des médicaments accorde les premières mises sur le marché de vaccins ARN messagers contre Covid-19. 6 mois plus tard, le gouvernement instaure un pass sanitaire pour pousser les Français à utiliser ces vaccins. Les mesures de rétorsion se font de plus en plus violentes envers les récalcitrants. Pourtant, un an après, 3 doses injectées sous la pression politique, les vaccins montrent leur inefficacité par un rebond épidémique éclatant.
Et bon, quand on injecte du code génétique qui contient les gènes qui codent pour le protéine spike, eh bien, la machinerie biochimique, elle fait ce qu'on lui demande. On lui amène une photocopie avec de la protéine spike, elle fabrique des protéines spike, Personne ne peut dire quels seront les effets à long terme de ces vaccins. Personne. Pendant mes études, on m'a appris qu'on ne vaccinait jamais pendant une épidémie. Parce qu'on joue les apprentis sorciers, là. On va avoir le microbe natif et la vaccination. On ne sait pas du tout ce que ça va donner comme mélange. Donc, prudence, on dit toujours, ne pas vacciner pendant... Et ici, à la poubelle, on vaccine tout le monde. 7 milliards de doses. La grosse invention, c'est qu'on ne suit pas les malades ou les morts, on suit les cas. Et ces cas, c'est simplement un test PCR positif. Donc, on a multiplié le nombre de cas pour pouvoir faire peur aux gens. Je ne vois pas d'autre raison. Je ne suis pas un fan de la télévision, mais c'est du martèlement publicitaire grossier, cette histoire d'Omicron. Il n'était pas encore sorti qu'on était déjà occupé à dire « c'est affreux, une vague de plus ». C'est vraiment une construction complètement artificielle, mais comment les gens ne s'en rendent pas compte? Là, je ne sais pas. Il y a une espèce d'hypnose collective. Moi, je ne peux pas dire autre chose. Moi, je pense que ça va être tellement énorme quand on va voir que le vaccin crée une surmortalité. Ça commence à sortir, on commence à le voir. La mortalité, c'est le seul statistique qu'on ne sait pas modifier. Parce que chaque mort a un nom et on peut vérifier. Donc, on est occupé à voir que depuis qu'on a fait des vaccinations de masse, on voit la mortalité augmenter. Quand on va voir l'ANSM, il n'y a pas de rubrique d'essai dans les effets secondaires. Et quand on gratte un peu, on trouve qu'il y en a 1200. Ça veut dire qu'il y a 1200 personnes ou 1200 médecins qui ont tout de même pris le courage d'écrire le protocole pour l'envoyer à l'ANSM. C'est probablement 5 ou 10 fois plus qu'il y a. Ça ferait 12 000 morts en France. Et la pharmacovigilance mondiale montre tous un nombre très important de morts. Et on ne dit pas ça aux gens. Moi, on me dirait, t'as un vaccin, mais tu peux peut-être mourir avec le vaccin. Mais jamais je n'accepterais de le faire. Alors quand ça va apparaître bien clairement, eh bien, je ne vois pas comment ils vont expliquer.
ANSM, le docteur Jean Stevens vous parle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Le site rapporte en effet les effets indésirables signalés et enregistrés. Hélas, certains effets indésirables ne sont pas enregistrés par quelques médecins et pharmacies qui refusent de les considérer comme tels ou ne veulent pas perdre le temps à le faire.
Les généralistes ont été évacués de la discussion. Qu'une autorité politique interdise aux médecins d'utiliser des médicaments qu'ils jugent en âme et conscience être efficaces. Enfin, j'entendais un généraliste du nord-est de la France qui disait, moi un jour j'ai eu une malade jeune qui ne pouvait pas rentrer en clinique parce que les pompiers étaient débordés. Elle avait un rythme respiratoire 32 ou 33, enfin bref, elle était polypnique, comme on dit chez nous, elle respirait très rapidement, il lui a donné le traitement qui était interdit, et 24 heures après, elle a dit, moi je suis ressuscité. Hein. Alors, il a dit ça à 2 copains, et à 3, ils ont décidé de traiter tous leurs cas avec les médicaments en question. Sur 300 personnes qu'ils avaient, donc 3 généralistes, faisaient 300 personnes qu'ils avaient, il n'y a pas eu un mort et il n'y a pas eu une hospitalisation. le conseil de l'ordre les a convoqués et leur a dit, c'est fini, hein, là, vous ne pouvez pas employer ce médicament. Mais c'est criminel. Ce sont des conseils de l'ordre qui viennent dire, qui donnaient un ordre à des médecins en disant, vous ne pouvez pas faire un traitement qui sauve. Que le conseil de l'ordre punisse des gens, puisqu'il leur interdit de pratiquer, alors que ces gens ne font que suivre ce qui est marqué dans le serment d'Hippocrate sur lequel ils ont juré, c'est tout de même assez ahurissant. Ils sont condamnés pour le respect des principes de l'éthique. On est dans un monde de fous. De fous, mais de fous criminels.
Qu'est-ce que vous avez à dire à tous les médecins, infirmières, ambulancières, toutes ces personnes qui se sont juste posé la question et qui sont aujourd'hui privées de leur travail et de leur revenu?
Le doctoton, là. Enfin, je n'ai pas tout regardé, évidemment, c'est 24 heures. Mais c'est touchant d'humanité, tous ces témoignages. C'est manifestement tous des gens qui ont de la tripe, qui ont un sens humain de leur métier. Et c'est ceux-là qu'on détruit. Et qu'est-ce qu'on va laisser? Ah oui, ceux qui ont cru que le métier de médecin, c'était de faire du fric en faisant des ordonnances. Et chaque fois que je faisais une ordonnance, je touchais 25 euros, 30 euros. Et alors, quand c'était un Covid, je touchais le double, c'était encore mieux. Mais donc, on va se retrouver avec les vrais médecins qui sont tous mis à la porte et les faiseurs de fric, parce qu'il y en a toujours eu. Ceux-là vont continuer à pratiquer. Bonne chance. Je ne sais pas vers quoi on va, mais c'est...
Vous dites à un moment donné, on a fait sauter les verrous de sécurité de nos démocraties.
C'est très vrai. C'est très vrai. Il y a des règles de notre législation qui protègent l'intégrité physique et l'intégrité psychologique. On ne peut pas vous forcer à faire certaines choses. On marche dessus pour le moment. On marche dessus. Et la démocratie, elle est fondée justement sur le respect de chaque individu et pas sur la volonté de quelques-uns. Or, pour le moment, ce qu'il y a, c'est qu'on est dans un réseau qui a été imaginé par une petite poignée de gens dont le but, finalement, est de préserver les privilèges dont ils jouissent depuis des années.
Et vous dites, il est très loin le temps donc où le docteur Sabin, inventeur du vaccin de la polio, avait fait don de son brevet aux enfants de l'humanité.
Tout à fait. Mais ici, le fait qu'on ait pu breveter le code génétique, c'est une monstruosité. On brevette la vie. Mais merde, ce sont des petits chimistes et des petits pharmaciens qui se permettent de breveter le code génétique. C'est à moi. La propriété, c'est incroyable. On est perverti, hein. On est dans un monde complètement perverti. Alors, je ne sais pas si je me bats contre des moulins, mais en tout cas, je me bats. Je m'en fous si on me tue, je m'en fous complètement. Mais je trouve que c'est énorme ce qui se passe, et il faut le dire à toute cette jeunesse qui doit encore, elle va se trouver déjà avec toute l'énormité du climat. Et puis en plus, on va se trouver avec tous des enfants qui ont été vaccinés contre leur volonté. On ne va pas laisser ces monstres à la tête de l'humanité. C'est inacceptable. Il est temps qu'on se réveille, quoi.
C'est votre conclusion?
Oui, oui.
Merci, Dr Stevens. Merci à tous les médecins, professionnels de santé et chercheurs qui, par leur courage et leur prise de parole, nous ont permis de rester confiants durant ces deux années de tentatives de déstabilisation et de pression psychologique. Retrouvez cette émission en podcast sur le site cfmradio.fr. Merci et à bientôt.